Vous voyez ici, au fond, c'est le palais des colonies. Donc la petite bourgeoisie se promène là-dedans. Et puis, en dehors de ça, c'est l'Afrique. Vous voyez, un chef avec ses lances, ses javelots, etc. Le collier fait de dents de léopard. Et puis, quelques femmes ici, à demi nues, tout près d'une rivière, des palmiers, etc., des cases, hein, vous voyez là derrière, ça c'était pour des primitifs. Et puis, ici, voilà déjà là, ce qui représente la pénétration européenne, ce sont des maisons, les premières résidences des missionnaires. Donc, le contraste, ce qu'on voit ici à droite, représentant, disons, la supériorité européenne, et bon, voilà de l'autre côté, l'infériorité. Tout ça sur une carte. C'est de l'exposition de Tervuren, 1897.
Ce qui est fascinant, c'est que l'art des impresarios, c'est de comprendre qu'il faut créer la demande. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs impresarios français, par exemple, qui arrivent avec leurs propositions, leurs villages, leurs exhibitions, leurs spectacles. Et l'un emporte le marché avec une surprime quand on rentrait dans le village noir, par exemple, qui était la grande spécialité des Français. D'abord parce qu'il y avait un grand empire africain et que ça correspondait à plusieurs types de populations qui pouvaient venir. Et ces impresarios vont à peu près traverser, pour faire simple, entre 1895 et 1930, à peu près une cinquantaine de villes en province vont recevoir en France des grands villages africains. Et le modèle était à peu près toujours le même. Les Africains arrivaient, ils étaient passés d'une ville d'avant, ils arrivaient dans une nouvelle ville, ils construisaient eux-mêmes leur décor, ils l'adaptaient au territoire. Généralement, vous aviez un point d'eau, c'était l'attraction majeure. Hein. Le public jetait une pièce d'eau et les jeunes enfants plongeaient dans l'eau pour la récupérer. Alors ça fascinait tout le monde.
La République des zoos humains. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani.
Là, on est au Jardin zoologique d'acclimatation, qui était le grand lieu parisien à la fois de sortie dominicale, de découverte du monde animalier sauvage. C'était une sorte de bouffée d'air vers un monde de verdure, d'écologie et de nature, dans une ville qui s'urbanisait énormément au 19e siècle. Il y a eu ce désir des grandes capitales européennes de créer des lieux de nature, puisque la ville perdait par définition ses espaces naturels.
Pascal Blanchard.
Donc le Jardin d'acclimatation de Paris a été un des plus importants en Europe. Il commence à s'épanouir à partir des années 1860. Et après la crise de 1870 et de la Commune, où quasi tous les animaux vont être dévastés et détruits, il y a toute une réflexion pour savoir à la fois comment relancer commercialement le jardin et comment attirer un nouveau public. Le public n'est plus dans les attentes du début du 19e, il cherche d'autres phénomènes. Et en fait, le jardin va découvrir qu'en Allemagne, notamment à Genbeck, à partir de 1874-1875, commence... Lui qui était un importateur d'animaux sauvages sur le port d'Hambourg, commence à exhiber des populations qui viennent du monde entier. C'est à la fois des populations du sud, qu'on va appeler exotiques, mais ça peut être aussi des populations comme les lapons. En fait, c'est des populations extra-européennes pour la plupart, et ils voient le succès très vite, puisque Hagenbeck commence en 1874-1875. Deux ans après, en 1877, la direction du jardin d'acclimatation prend conscience qu'il y a à la fois un intérêt pour ces troupes du public, une forme de fascination, de curiosité, qu'en plus ces troupes sont souvent accompagnées d'animaux, donc ça correspond au modèle du jardin, et que ça peut faire démultiplier la billetterie, mais par des chiffres incroyables. Et dès 1877, la première troupe arrive, le succès est immédiat, et quasi, à part quelques années de rupture, tous les ans, une troupe, voire deux troupes, viendront au Jardin d'acclimatation de Paris, en faisant d'ailleurs le premier lieu d'exhibition parisien, et certainement... l'un des premiers lieux en Europe avec le zoo Terpak d'Hagenbeck qui est à Hambourg. Et donc c'est devenu, avec plus d'une trentaine de troupes identifiées aujourd'hui assez bien, le grand lieu d'exhibition parisien. Certaines troupes faisaient près d'un million de visiteurs à l'époque. C'est un endroit extraordinaire. Quand vous avez les photos, les cartes postales d'époque, vous voyez la foule qu'il y avait sur cette esplanade. Mais c'était incroyable. Ça tourne tout le week-end. Donc on allait au jardin. Où on allait voir les sauvages.
On fait le truc avec le lion. On est dans une petite salle qui explique l'idéologie des races qui a justifié les eaux humains. Et donc on commence avec Johann Friedrich Blumenbach. C'est un savant allemand qui avait une collection de crânes et qui a inventé le système de 5 races basé sur le couleur de peau.
Martine Coutenier, Africa Museum de Tervuren, Bruxelles.
Donc blanc, jaune, brun, noir et rouge. Donc ça, c'est très simple et ça a fonctionné très bien. Mais donc, il y a différentes techniques, hein, comme vous voyez dans la vitrine. Le livre s'appelle « Des races humaines » et c'est une citation en fait de Edwards, qui a créé la Société ethnologique à Paris. Il y a différentes éditions. La première est 1839 et celle-ci, c'est 1850. Ce petit livre, ce carnet, est envoyé au Congo pour déterminer la couleur de peau fin du 19e. Donc ça, c'était pour des médecins pour déterminer la couleur de peau des Congolais. Parmi les Congolais, il y avait des Bangalas, des Balubas, des Lunda, des Mangbetu. Et donc l'idée, c'était de trouver un critère pour déterminer physiquement les différentes races au Congo. Ça, c'est une obsession européenne de diviser, de classifier, de comprendre tout. Et donc ça, très particulier à l'Europe de mesurer, de comprendre. Et, oui.
La race et le racisme, c'est pas la même chose. Hein. Le 19e siècle, c'est le siècle de la race parce que cette notion apparaît progressivement et devient une véritable notion scientifique.
Carole Reynaud-Paligaud.
Puisqu'elle est portée par une science qui se nomme l'anthropologie. Et cette science s'institutionnalise dans la seconde moitié du 19e siècle en se donnant pour objectif de déterminer, de classer les races humaines. Et en même temps, elle produit une très forte hiérarchisation puisqu'elle place au sommet de la hiérarchie la race blanche.
Séance du 7 mars 1889, sous espèce d'holicocéphale septentrionale. Australien. Premier groupe européen. Coularien.
Papou. Mélanésien.
Néandertaloïde.
Race de Cro-Magnon.
Race de Néandertal.
Méditerranéen.
Australien.
Berbère. Cananéen.
Scandinave. Coularien.
Ainu.
Pseudo-arien.
Mélanésien.
Uchi. Race néolithique.
Zigane.
Chamite. Asiatique.
Indo-chinois. Holicocéphale.
Américain.
Polynésien.
Foul.
Chinois. Indonésien.
Nubien. Micronésien.
Race des Paraderos.
Celtes.
La notion de race, elle se construit progressivement. Et pour arriver à comprendre pourquoi elle arrive à un moment donné dans le champ scientifique et pourquoi elle connaît un véritable succès, il faut repartir de la fin du XVIIIe siècle où les savants sont animés par une approche classificatoire. Donc on peut penser bien sûr à la botanique et à l'inné qui tente d'ordonner le monde végétal. Cette entreprise classificatoire, elle s'applique aussi au monde animal. Et là, le terme de race qui n'est pas utilisé en botanique est utilisé pour classer le monde animal. Et comme c'est à l'époque où on établit eh bien, une proximité entre l'homme et les animaux, assez logiquement, dès la fin du XVIIIe siècle, chez ces savants classificateurs, chez ces naturalistes, on voit apparaître les premières classifications sur les races humaines. C'est celle de Linné, de Buffon, de Blumenbach en Allemagne. Voilà, il y a toute une communauté scientifique hein, qui dialogue, qui se lit, qui s'écrit, qui échange. Il y a une internationale raciologique qui apparaît à cette époque et qui se développe surtout au 19e, au moment où la science des races devient une véritable science, l'anthropologie, toute une vie scientifique hein, qui s'empare de cette notion et qui ambitionne, à partir de techniques que l'on pense scientifiques, l'anthropométrie, qui ambitionne de déterminer les races humaines à l'échelle du globe.
Pour pouvoir mettre en place des zoos humains, il faut déjà avoir fait accepter que l'humanité pouvait être divisée entre les humains et les personnes qui sont proches des animaux. Et donc c'est tout ce qui s'est passé dans les siècles qui ont précédé la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, l'heure de gloire des zoos humains.
Mabula Soumaoro.
Ça précède tout ça, en fait. Ça commence pas là, à mes yeux. Là, ça démocratise. Ça démocratise peut-être des choses qui étaient liées à des intérêts particuliers, notamment économiques, à des classes politiques particulières, à des voilà, il y avait de la législation pour ces territoires. Donc peut-être que les eaux humains, c'est juste quand toutes ces pratiques-là, elles pénètrent la psyché nationale, enfin la psyché plus collective. Elle ne naît pas à ce moment-là. Après, la question des corps issus de ces territoires coloniaux, oui, peut-être qu'elle est mise en avant, qu'elle est mise en spectacle, qu'elle est mise, oui, sur scène, offerte au regard des populations locales européennes à la fin du 19e et début 20e siècle. C'est aussi, fin 19e, 20e siècle, on entre dans l'ère du spectacle, on entre aussi dans l'ère de la monstration, de vraiment de la culture populaire. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet colonial, il est beaucoup plus ancien.
Ces idées de race qui finalement creusent les différences, qui s'accompagnent de hiérarchies, elles vont prospérer dans un contexte politique de domination, puisque finalement, quand on en cherche à dominer une population, la catégoriser et la dévaloriser, ça permet de justifier des dominations qui sont parfois difficiles à justifier. Au moment où l'Europe chrétienne, avec ses valeurs chrétiennes, soumet des populations en esclavage, puis quelques décennies plus tard, au moment où les puissances coloniales européennes veulent dominer et s'emparer d'autres territoires, cette notion de race et cette hiérarchisation qui l'accompagne va être mobilisée pour justifier des dominations difficiles à justifier, puisque la colonisation se déroule à l'époque républicaine, à un moment où on affirme des valeurs de fraternité, d'égalité. Voilà, donc s'ils sont différents et s'ils sont inférieurs, ben, finalement, on peut justifier plus facilement une domination qui bafoue les valeurs républicaines.
Les eaux humains ne viennent pas de nulle part. Dès Christophe Colomb, de retour des Amériques, Christophe Colomb ramène des Indiens. Il ne ramène pas que des objets, il ne ramène pas que des animaux sauvages, il ne ramène pas que du biotope, il ramène aussi de l'humain pour montrer aux cours européennes, et notamment espagnoles et portugaises, qu'il y a d'autres peuples de l'autre côté des terres. Mais à ce moment-là, on a affaire à quelque chose qui reste dans les milieux aristocratiques, qui n'est pas en tant que tel un rapport marchand à l'exhibition, qui n'est pas encore une tournée, on va dire, de spectacle grand public structuré comme tel. Puis, petit à petit, au XVIIIe siècle, va progressivement, avec les explorations, émerger aussi, dans le monde du cirque, de plus en plus de présence de ce qu'on appelle des freak shows, c'est-à-dire des monstres, des personnes de foire, telles qu'on peut les imaginer dans des films où on voit ces monstres de foire qui venaient, la femme géante, l'homme qui brise le fer et autres, donc du freak show, et à côté d'ethnic show. Le 18e, ce qui prime, c'est le monde de l'étrange. Donc le rapport, en fin de compte, on veut étonner le visiteur. Le visiteur vient par la curiosité. Donc le monde de l'étrange commence à mélanger ces deux mondes. Mais il n'y a pas encore cette conceptualisation que l'ethnic show a une spécificité, qui est liée aux empires coloniaux et qu'il y ait une attente particulière du visiteur. Ça, c'est le début du 19e. La Vénus Hottentote est à la fois un élément marqueur, parce qu'elle est connue, aujourd'hui son récit est parfaitement connu, qu'elle se retrouve à la fois au carrefour du monde du spectacle. Un impresario va l'acheter en Afrique du Sud avec l'idée de l'exhiber, non pas simplement en tant qu'être étrange, puisqu'elle l'était aussi par son corps, mais d'abord en tant que représentante, entre guillemets, du peuple Tonto. Il va l'exhiber à Londres et à Paris, et là, on a un début de processus, parce qu'il se double de ce processus, déjà d'une vision du monde qui est dorénavant coloniale et raciale, qui pense qu'il y a eux et nous. Et enfin, le monde savant. Le monde savant est un monde qui est fasciné par ces populations exotiques qui arrivent en Occident. D'un seul coup, le spécimen vivant, après les squelettes, arrive en Occident. Et là, on rentre dans ce qu'on pourrait appeler le zoo humain contemporain, qui va progressivement se déployer au 19e pour commencer à rentrer dans une sorte de rythme de croisière, c'est-à-dire de déploiement dans toutes les nations européennes, japonaises, américaines, dans le deuxième tiers du 19e siècle, où là le modèle devient à peu près partout le même.
Il y a une véritable passion pour le corps humain, une passion pour l'observation la plus précise possible, Et puis surtout, si cette passion a été si vive, c'est parce que cette science devait répondre à des questions qui passionnaient l'ensemble de la société, c'est-à-dire quelles sont les origines de l'homme? Est-ce que l'homme est unique? Jusqu'où vont les différences? Comment on peut les comprendre, ces différences? Quand elles sont apparues? Comment elles se sont manifestées? Et puis quelles vont être les évolutions? Donc ça a passionné plusieurs générations de savants qui étaient souvent de formation médicale ou qui venaient de la zoologie. Mais pas seulement. On a par exemple quelques exemples d'anthropologistes comme Abel Ovolac, qui lui était avocat républicain, très engagé en politique, était élu au conseil municipal de Paris. On a même encore une rue là qui porte son nom. Et Abel Ovolac a écrit un ouvrage sur les races humaines, où il a non pas pratiqué lui-même des mensurations, mais repris celles de ses collègues de la Société d'anthropologie. Et un grand renfort de statistiques et de dessins anthropométriques, il a voulu montrer que les populations africaines avaient des mensurations intermédiaires entre les grands singes et l'homme blanc civilisé.
Dans une communication que j'ai faite l'année dernière à la Société sur la mensuration des angles céphaliques par la méthode trigonométrique, j'ai fait remarquer que les instruments destinés à mesurer ces angles peuvent se diviser en deux groupes. Les goniomètres simples, dans lesquels le centre du cadran correspond au sommet de l'angle à mesurer, et les goniomètres compliqués, dans lesquels les changements de direction des côtés de l'angle sont marqués par des leviers articulés sur un cadran placé à une grande distance du sommet, ou sur une tige droite graduée expérimentalement en division correspondant...
Les anthropologistes ont été les premiers à mobiliser des statistiques. Alors, évidemment, la faiblesse, c'est que les statistiques n'étaient pas assez nombreuses, pas assez fiables, mais en tous les cas, à l'époque, ça a paru tout à fait crédible et tout à fait intéressant. Alors, tout cela a été repris dans des ouvrages, dans des manuels. Par exemple, Paul Topinard a écrit un manuel d'anthropométrie dans les années 1880, qui a été réédité, traduit à l'étranger, ce qui montre bien l'influence de l'école française d'anthropologie. C'était aussi un centre de formation, le laboratoire d'anthropologie qui a été créé en 1867 et rattaché par Victor Duruy à l'école pratique des hautes études, était un centre de recherche, mais aussi un centre de formation où des savants du monde entier sont venus se former pendant plusieurs décennies aux techniques de mensuration. Voilà, alors le cerveau a beaucoup intéressé, évidemment, puisque c'était le siège de l'intelligence, et si on voulait arriver à caractériser précisément ces races, la question « sont-elles tout aussi intelligentes ?» était évidemment centrale. Donc ça, c'est l'étude du crâne. Le crâne est formé de deux parties chez tous les mammifères, nous dit Topinard, le crâne proprement dit, réceptacle du cerveau et la face.
L'angle facial a été imaginé par Camper dans le but d'attirer l'attention des artistes sur les différences qu'offre la figure humaine suivant les races et suivant les âges, et de leur donner une règle pour sa reproduction. Il plaçait la tête ou le crâne dans l'attitude qui lui paraissait le plus naturelle, et traçait une première ligne horizontale en prenant pour point de repère approximatif le trou auditif, et le bord inférieur des narines.
L'allongement énorme des crânes dans le sens longitudinal coïncide chez elle avec un grand aplatissement de la voûte. Un autre caractère important est la proéminence des bosses sourcilières, symétriquement.
L'endroit où ces deux lignes se rencontraient, que ce fût au niveau du maxillaire ou en avant, formait le sommet.
75°40 descendait chez les nègres à 69,78 et chez les nubiens à 67,80, ce qui établit une différence de 6 à 7 degrés entre le type caucasique et le type éthiopique.
En fait, s'il y a eu une osmose entre ces savants républicains et ces théories raciales, c'est aussi parce que ces savants étaient engagés dans une lutte à caractère idéologique et politique, émanciper la société de l'emprise de la religion. Et finalement, la science était aussi un moyen de lutter contre l'influence de l'Église, de remettre en cause les dogmes portés par cette institution si puissante et si présente dans la société. Donc ces deux combats, le combat anticlérical et le combat républicain sont allés de pair, et le combat scientifique aussi sur cette notion de race et cette nouvelle science. Donc, vous voyez que tous, finalement, acceptent la notion de race et l'utilisent pour reconstruire leur explication et leur théorie sur l'origine de l'homme. Parce que la grande question qui traverse ces milieux scientifiques, c'est est-ce que les races sont égales? Est-ce qu'elles sont perfectibles? Est-ce qu'elles sont toutes capables d'atteindre, finalement, le haut de la hiérarchie, c'est-à-dire la civilisation européenne?
La figure 1 représente cette première pièce sous une inclinaison légère qui permet d'en voir toutes les parties. À mesurer ses angles, la figure 2 peut se diviser en deux groupes.
Si on tient compte des analogies qui ont été signalées, d'une part, entre l'homme de Néandertal et certaines tribus de l'Australie et de l'Inde, d'autre part, entre l'homme de Cro-Magnon ou de l'Augerie basse et les divers peuples méditerranéens, on peut établir ainsi la série des races qui composent ce groupe. Néandertal, australien, peut-être les papous. Puis viendrait une foule de races mêlées, produites par le croisement avec des groupes différents. Races néolithiques des dolmens, kamites, couchites, polynésiens et indonésiens, peut-être les chinois, fulbes, nubiens, éthiopiens.
Ernest, il est plus rapide.
Un impresario, ça doit rentabiliser sa troupe. Le matin, c'est dédié au savant. Il n'y a pas de spectacle le matin. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de grand public, si vous préférez. Mais vous pouviez avoir 10, 15 anthropologues qui étaient présents. Ils venaient de toute l'Europe. Imaginez, des Fujiens arrivent, des aborigènes sont là, des Zoulous, des Hottentotes, des Pygmées. Les populations du monde arrivent, vivantes, en famille, en collectif, entre guillemets, dans leur biotope, et vous avez le temps de les étudier. Vous avez certains savants qui restaient 15 jours, 3 semaines, 1 mois dans les grandes villes de Tournai, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, pour venir étudier ces populations qui étaient là. Et beaucoup de traités, si vous lisez La Nature aujourd'hui, la grande revue scientifique de l'époque, ou le bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, quasi toutes les troupes qui ont été exhibées aujourd'hui à l'acclimatation de Paris ont fait l'objet de totales études de 7, 8, 10 pages, plus des recueils complets. Quand vous lisez à Gustave Le Bon, en gros, il a construit sa racialisation du monde uniquement avec les spécimens qu'il a vus aujourd'hui à l'acclimatation. C'est même un phénomène presque qui s'inverse. Je dirais, on pourrait presque regarder une fascination pour telle ou telle population, non pas à l'aune des études de ces savants qui partaient vers l'ailleurs, mais des troupes que les impresarios amenaient. Ce sont des spécimens vivants. Dites-vous que jusqu'à maintenant, ils travaillaient sur des squelettes. Ils travaillaient sur des échantillons. Ils travaillaient sur des observations faites par d'autres. Et d'un seul coup, vous pouvez passer 5 heures avec l'autre. Vous pouvez le questionner. Vous pouvez essayer de travailler, le dessiner. Pour ça, c'est journaliste. C'est un sujet de première page. Le Petit Journal, entre 1890 et 1910, consacra plus de 60 couvertures aux troupes exhibées à Paris.
Les Dahoméens à Paris. Une caravane de Dahoméens, composée de 40 personnes, 16 hommes et 24 femmes, est arrivée hier au jardin d'acclimatation. Les uns sont originaires d'Abomey, les autres d'Egbo, village du territoire d'Abeokuta. Ces Africains, conduits par un cornac d'origine hindoue, mais qui porte un nom anglais, John Hood, et qui fait spécialité de ses exhibitions ethnographiques, sont en général de taille peu élevée. Leur peau est plutôt bronzée que noire. Ils ont, comme les races inférieures de nègres, le nez épaté, de grosses lèvres et les cheveux laineux. De ces 40 transportés, 37 seulement sont dahoméens. Ils ont avec eux 2 musiciens ou griots et un cuisinier qui sont des nègres quelconques, à qui sont dévolues les fonctions inférieures que ne sauraient décemment accomplir des guerriers ou des guerrières. Car ce sont tous gens de fusil ou d'épée qu'on nous montre, tant les hommes que les femmes. C'est mieux qu'un échantillon ethnographique du Dahomey. C'est une représentation des adversaires que nos soldats eurent à combattre.
Les premières troupes, si vous préférez, la question du recrutement, comme on pourrait l'appeler, se passe très souvent sous la contrainte ou sur l'absence totalement de perspective pour ceux qui sont recrutés de force. Alors, le recrutement de force est très particulier parce que nous, on le perçoit aujourd'hui comme des gens qui vont être captés et mis dans des bateaux. Donc, en gros, le système de l'esclavage, c'est un petit peu plus complexe. C'est des populations qui, généralement, étaient extrêmement pauvres et donc totalement manipulées. Et quand elles se retrouvaient sur un bateau, elles n'avaient aucune idée où elles allaient. Donc, c'est un peu plus à nuancer. Mais sur le fond, elles sont contraintes. On va très vite rentrer dans le temps où il faut mieux payer les populations qui sont exhibées. Parce qu'une population amenée ici, notamment au jardin d'acclimatation, comme les Fujiens, ils ne bougeaient pas toute la journée. Ils sont en dépression. Ils pensent qu'un truc, c'est rentrer au pays. Vous avez vu la température que nous avons autour de nous aujourd'hui? Imaginez qu'ils sont torse nus en plein hiver. Qu'est-ce qui se passe? Le public demande, mais pourquoi ils ne bougent pas? Pourquoi ils ne jouent pas au sauvage? Et le sauvage qui ne joue pas au sauvage, c'est un mauvais spectacle. on va vite se rendre compte qu'il faut mieux rémunérer les gens. Certes, très mal, voire payer en batterie de cuisine comme les Congolais en 1897 à Bruxelles, mais on va les payer. Les payer avec, en plus, un spectacle qui va être écrit, avec des moments clés pour le visiteur. L'arrivée du roi africain, le mariage, la mosquée. Parce qu'il va falloir faire vivre le spectaculaire. Et petit à petit, il va même y avoir des spécialistes en Afrique, je pense à Thiam, par exemple, au Sénégal, qui vont devenir eux-mêmes quasi des impresarios. Donc, vous voyez, le modèle va muter en permanence.
On voulait montrer les autres en contraste avec nous-mêmes.
Zana et Tambala.
Ces expositions coloniales, avec la présence des exotiques, des barbares, des primitifs, etc. C'est un phénomène, disons, du dernier quart du 19e siècle. Les sociétés européennes étaient en train de se transformer, étaient en train de se moderniser. L'Europe, l'Occident était fier de ce qu'on appelle des progrès faits depuis quelques décennies. Et alors, on voulait montrer les autres qui, à ce moment-là, ne faisaient pas tous ces progrès-là, dont les sociétés demeuraient encore en quelque sorte archaïques. Et c'est pour cela, à côté de ces villages nègres, il y avait aussi des expositions ethnographiques, etc. Et on voit bien sur les photos, on voulait vraiment accentuer le contraste en montrant d'une part, par exemple, les canons Krupp produits en Allemagne, etc., mais aussi des armes fabriquées à Estal, le Liège, ici en Belgique. Et de l'autre côté, ces armes de jet, des flèches, des arcs, etc. Comme ça, les visiteurs pouvaient voir, oui, nous, c'est le progrès, c'est la modernité, eux, ce sont encore des primitifs qui chassent encore comme les ancêtres gaulois il y avait donc 2000 ans. C'était ça le but, de donner aux visiteurs, aux Européens, l'impression que leur société évoluait dans le bon sens et que, à ce moment-là, leur société était supérieure à toutes ces sociétés africaines, américaines, asiatiques, etc.
Ce contexte de très forte hiérarchisation, d'affirmation très forte aussi de supériorité de la civilisation occidentale, on n'est pas autant du relativisme culturel, on est autant où on pense que l'avance scientifique et technologique que possèdent certaines nations est un signe évident d'une supériorité naturelle de certaines populations, de certaines races, sur les autres. Donc c'est en cela que ce contexte influence finalement des hommes de science, parce que forts de leurs objectifs scientifiques, rationnels, ils se sont laissés influencer par des représentations qui étaient présentes dans la société, qui s'étaient installées dans la société, ce qui les a engagés sur une mauvaise voie, une voie qui sera remise en cause ensuite. Et puis, le lien entre science et politique, c'est aussi que ces théories scientifiques que produisent les scientifiques, ces théories raciales inégalitaires, eh bien, elles sont utilisées par les politiques pour justifier la colonisation. Donc vous voyez, les deux contextes finalement se confortent, ça renforce encore plus l'idée que les races sont inégales. C'est-à-dire que il ne faut pas penser que ce sont ces savants qui sont responsables de cette vision inégalitaire, puisque les visions inégalitaires, les dépréciations des populations, elles existaient avant que la notion de race arrive. Mais quand, dans le champ scientifique, on affirme que la race est une notion scientifique, qu'il existe des races et qu'il existe des races supérieures et inférieures, ça renforce considérablement des théories inégalitaires qui étaient déjà présentes dans la société. si ces races sont inférieures. Ferry l'a dit de manière très claire, Jules Ferry, dans son discours de 1882, les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. Elles ont besoin de nous, Européens, parce que sinon elles végètent à un état sauvage. Alors après, ça s'est évidemment adouci, puisque quand on les a un peu mieux connus, on a commencé à remettre en cause le caractère primitif ou sauvage. Mais jusque dans les années 1930, on trouve des justifications de ce type. Prenons un exemple, celui d'Albert Sarrault, qui est ministre des colonies. Il juge que le cerveau des populations africaines n'est pas encore prêt pour acquérir toute la civilisation occidentale, toute la culture occidentale. Dans les pays européens, il a fallu plusieurs siècles pour que, depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, pour que petit à petit, le cerveau puisse progresser et produire une culture de plus en plus sophistiquée, élaborée. Mais cette longue maturité, eh bien, elle a été nécessaire. Donc on ne peut pas l'imposer trop rapidement aux races africaines, dit-il. Il ne faut pas bousculer l'hérédité raciale. Donc il faut du temps et il ne faut pas aller trop vite, à la fois dans les programmes scolaires, à la fois dans les droits politiques et à la fois aussi dans les idées d'une éventuelle autonomie politique ou d'une éventuelle émancipation politique.
Il y a une chose qui est souvent oubliée dans le zoo humain, c'est le moment où se construisent aussi les identités nationales. On a l'impression que dans le zoo humain ne se construit que le sauvage, si vous préférez, que l'image du sauvage. Alors que dans le même temps, se fabrique dans toute l'Europe, au Japon, mais aux États-Unis aussi, l'idée de son identité nationale. Quand les Suisses font venir un village sénégalais en 1896 à Genève, et qu'à côté ils font un village suisse, pour les Suisses, hein, c'est pour dire aux Suisses, vous n'êtes pas un noir, vous êtes ça. On se fabrique soi-même. On n'est pas un sauvage, on est cultivé, on a une culture, on a une religion, on a une famille monoparentale. Il y a tout un nombre d'éléments. Et donc, ce que les gens oublient, c'est que la Troisième République a construit à la fois le discours sur le français, comme l'Allemagne a construit un discours sur l'allemand, comme l'Italie va construire un discours sur l'italianité, à travers aussi le zoo humain. C'est un miroir inversé, si vous préférez. Et les deux concourent. En même temps que vous construisez l'altérité du monde, vous construisez aussi les identités nationales. On oublie toujours que la Troisième République, elle est née sur une défaite militaire. Et une humiliation militaire. L'Empire, les colonies, à côté de l'école et de l'armée, c'est un des trois piliers de la Troisième République, Jules Ferry. Et donc, ces exhibitions, vous avez tout à l'heure cité la grande exposition de 1889, qui, je le rappelle, commémore la Révolution française, les droits de l'homme. C'est pas juste l'édification de la Tour Eiffel. Hein. Donc il y a une dialectique derrière ça. Et au cœur des droits de l'homme qu'on commémore, on fait quoi? Les villages africains. Il y a un paradoxe. Pour nous, pas pour eux. Non, c'est la lumière de la République qui va rémaner sur la Terre. Montrer le village dans les ténèbres, c'est dire qu'il faut y amener la lumière. Et la mission de la République et du pays des droits de l'homme, c'est d'amener la lumière. Donc, ce qui pour nous aujourd'hui est totalement délirant, enfin, si on y réfléchit bien, est à l'époque d'une cohérence absolue. La République a pour mission d'étendre les valeurs universelles. Et bien sûr, le modèle, c'est nous. Mais pour être considéré comme un modèle, il faut déjà se percevoir comme un modèle. Et toute cette dialectique-là sous la Troisième République, sur cet État-nation, sur une République qui doit amener la lumière au monde, sur un grand empire colonial qui amène donc une puissance qui a été perdue en 70, fonctionne à travers aussi le zoo humain qui rend proche cette dialectique-là. Donc c'est très politique, c'est intimement politique. C'est pas juste simplement de faire venir des gens dans des espaces d'exposition pour arriver à tenir une gloriole coloniale. Les gens l'ont oublié, on était dans un pays où l'importance de l'idée coloniale, elle n'est pas que liée au fait qu'il y avait des richesses là-bas. C'est source de puissance, de fierté cocardière, de grandeur. Les enfants à l'école, à l'époque, c'est 50% de la surface sur l'histoire et la géographie qui est dédiée à l'Empire. On a une société qui a une agence de propagande coloniale en France, dès la fin du 19e siècle, mais surtout à partir de 1920, la propagande coloniale fait partie du quotidien des gens. Et une exhibition coloniale ou une exposition coloniale, c'est un moment de propagande. Tout ça fabrique quoi? Une conscience. Une conscience coloniale, une conscience de qui on est. Et donc, quelque part, vous avez une forme de destin pour une nation. Vous fabriquez, après le rêve brisé de 70, la défaite face à la Prusse, vous redonnez à la France cette idée de grande puissance, de grandeur et d'être une grande nation. Si vous voyez aujourd'hui les discours politiques, la manière dont on pense que la France est en déclin depuis 1960, comme par hasard, c'est la chute de l'Empire. Comme par hasard. La perte de l'Empire, c'est la perte de la grandeur. Pour beaucoup, dans l'esprit aujourd'hui nationaliste et populiste, c'est là que se fixe le déclin de la grande nation.
Ça aurait pu rester une activité cantonnée à quelques centaines d'anthropologistes passionnés par leurs os et leurs mensurations. Mais non, en fait, ils ont vulgarisé leurs recherches. Hein. On en trouve trace dans la presse de l'époque, dans les manuels scolaires. Il y a le manuel de Paul Bert qui est assez éclairant à cet égard et qui montre bien aussi les liens entre les milieux scientifiques, les milieux politiques et les milieux coloniaux, puisque Paul Bert, en fait, c'est un savant qui était aussi un républicain engagé, un proche de Gambetta, et qui est devenu administrateur de l'Indochine, avant de mourir assez jeune en Indochine. Donc voilà, on pouvait être à la fois un savant, un républicain et aussi se passionner, s'engager dans l'aventure coloniale. Voilà ce qu'on pouvait, ce que les écoliers pouvaient lire dans un manuel donc de sciences naturelles qui a été publié une première fois en 1880 et réédité de très nombreuses fois jusqu'aux années 1930. Je cite donc Paul Bert, « Les nègres, peu intelligents, n'ont jamais bâti que des huttes parfois réunies en assez grand nombre pour faire une ville. Ils n'ont point d'industrie. La culture de la terre est chez eux au maximum de simplicité. Ce ne sont pas cependant les derniers des hommes. Il faut mettre après eux, comme intelligence, les petites races d'hommes qui habitent les régions les plus inaccessibles de l'Afrique. Bien au-dessus du nègre, nous élèverons l'homme à la peau jaunâtre. » Il a fondé de grands empires, créé une civilisation fort avancée. Mais tout cela semble de nos jours tomber en décadence. Mais la race intelligente entre toutes, celle qui envahit et tend à détruire ou à subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons, c'est la race blanche. Paul Bert, donc en 1885. Donc on voit bien les éléments donc, de la science des races, mais aussi cette compétition à ce darwinisme social qui a été intégré. Hein, c'est la race la plus intelligente qui domine, et c'est la loi naturelle. Et les races les plus faibles, eh bien, voilà, pour certains, elles doivent disparaître. Pour d'autres, elles doivent être éduquées lentement, progressivement, ou régénérées. Et toute cette culture raciale se diffuse dans la littérature. Ça se diffuse dans la presse et puis, évidemment, dans les expositions. La grande affaire du 19e siècle, c'est aussi les expositions universelles, les expositions coloniales. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit apparaître les zoos humains dont on a pris conscience il y a quelques décennies et qui ont frappé aussi et choqué les citoyens de la fin du 20e siècle. Mais à l'époque, on mettait en scène cette diversité humaine à travers des parcours que l'on faisait en famille, où on allait découvrir les différentes races mises en scène. Voilà comment on peut finalement caractériser cette culture raciale qui a imprégné le 19e siècle et dans ses prolongements encore au début du 20e siècle. Hein.
Au début, c'est les petites troupes. 5, 6, 7, 8, 9, 10 individus. Puis vous rentrez dans la deuxième dimension du zoo humain à partir des années 1890. Les troupes deviennent plus importantes, ça devient des villages. Les gens arrivent en masse, 110, 120, 130 personnes. Et puis vous avez le troisième temps où le public se lasse. C'est en gros la Première Guerre mondiale, où il faut réinventer le modèle. Et le modèle, il va se réinventer avec d'immenses expositions coloniales, où là, c'est pas un village que vous allez avoir dedans, c'est 10, 12. Mais il va falloir trouver autre chose. Pourquoi ? Parce que le public, quelque part, c'est un peu accoutumé, lassé du monde du spectacle. Donc là, on va aller chercher des troupes de plus en plus étranges. Les négresses à plateau en 1930 à Paris, par exemple, ou les canaques cannibales en 31. Donc ça fait partie aussi de comment les mondes du spectacle évoluent, qu'il n'y a plus de peur. N'oubliez pas que ces soi-disant sauvages sont venus sauver la République en 14-18, qu'on était dans les tranchées avec eux, dans les usines, dans les champs. On les a rencontrés, que certaines mêmes femmes se tombaient amoureux d'eux. Donc c'est plus le même monde. Il n'y a plus de peur. Vous n'êtes plus dans ce monde des danseuses javanaises de l'expo de 89 ou dans ce monde des dangereux guerriers zoulous. On est passé à autre chose, si vous préférez. Et d'ailleurs, on ne vient plus les voir parce qu'on ne les connaît pas. On vient voir un spectacle à ce moment-là. On est déjà changé un tout petit peu. Il y a eu une forme d'humanisation dans la mort de la guerre de 14-18. Alors, il y avait eu du sens pour les nations qui s'opposaient à l'utilisation de ces troupes. Les Allemands, les Italiens, les Belges étaient totalement opposés à la méthode des Français et des Anglais d'utiliser ces combattants. Mais ils sont venus. Et puis vous avez l'immigration qui débute. Ça change tout. C'est-à-dire qu'aller acheter sa baguette de pain en 1920 à Paris et pas tomber sur un étudiant africain ou un travailleur maghrébin, c'est une chance pratiquement impossible. C'est-à-dire, tout ça change beaucoup le contexte. On n'est plus dans le même monde, donc la proximité, elle vient aussi de là. Et elle vient aussi que dans le discours colonial, on est passé du temps du sauvage au temps de l'indigène. C'est vrai, c'est quand même délicat de dire aux gens « vous êtes sauvés par des cannibales » en 14-18. Donc on va totalement reformater l'image, si vous préférez, de ces sauvages. On va la reformater dans le sens où on va fabriquer quelque part une forme d'humanité. On va leur donner quelque part une forme de normalité d'être chez nous pour venir sauver la République. Donc le cannibale disparaît. Et il disparaît pourquoi ? Parce que la mission civilisatrice est en marche. Enfin, le système se mord la queue, mais c'est incroyable à voir. Pour autant, l'indigène n'est pas encore un homme ou une femme à notre égal. Il est encore sur la voie de la lumière. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un Blaise Diagne, sous-secrétaire d'État aux colonies en 1931, noir, qui inaugure l'expo coloniale de 31. C'est-à-dire que là, on sort du jeu du miroir ou de la barrière, et vous pouvez un noir, un ministre de la République, un sénégalais, qui inaugure un immense zoo humain. Vous voyez le paradoxe, parce que dans le zoo humain, il y a aussi cette idée que le système assimilationniste français vous fait à la fois rentrer dans l'humanité et donc vous fait sortir du zoo humain. Ce qui est la parabole absolue du discours républicain français colonial.
L'apogée de ce phénomène des eaux humaines, c'est dans les années 30-40. Mais même après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quelqu'un qui avait l'idée d'installer un zoo humain à Bruxelles. Ce n'était pas seulement les Belges, mais aussi les États-Unis à organiser un village hawaïen à Bruxelles. Et donc le but, c'était de montrer que le colonialisme avait détruit beaucoup de choses, mais que la culture congolaise était encore vivante. Et donc les Congolais, presque 600, des femmes, des hommes et des enfants, étaient obligés de montrer des métiers. Ils étaient des artisans, des ébénistes par exemple, qui faisaient des sculptures en bois, pour montrer que la culture congolaise était vivante. Mais le comportement des Belges était tellement négatif, hein, ils donnaient des bananes ou des réactions très racistes. Et donc les 600, après un certain moment, ils ont dit « maintenant c'est fini, on retourne ». Et les villages étaient fermés. S'il y a une dame qui donne une banane à un enfant en 58, ça veut dire que ces idées raciales persistent. Donc la propagande coloniale, dont les hommes humains est une partie, a renforcé cette idée raciale. Évidemment, oui. Il y a des millions de visiteurs. Donc, quand tu vois un Africain dans un village qui se comporte primitivement, parce que ça c'était le but, tu rentres à la maison et tu penses que, oui, l'Africain, il est primitif. L'accent était toujours sur leur culture primitive. C'est renforcer cette idée de primitivité et infériorité. L'Expo 58, c'est 2 ans avant l'indépendance du Congo. Et donc, les esprits ont fort changé. Il y a déjà des mouvements de révolte avant la Première Guerre mondiale, mais dans les années 50, c'était tellement répandu que le zoo humain était presque impossible, parce qu'il y avait déjà des Africains dans le public. Donc pour eux, c'était très bizarre de voir des Africains de l'autre côté de la barre. Mais le fait qu'il y a quelqu'un à Bruxelles qui disait « c'est une bonne idée de faire un zoo humain », ça veut dire que les Belges n'étaient pas au courant de tous ces mouvements. Un an plus tard, il y avait des révoltes à Kinshasa. Ils étaient tellement surpris. Et un an après, l'indépendance était réglée. Dans la pensée du spectateur, il y avait très peu changé. C'est peut-être ça le problème. Quand tu montres une autre personne dans une hutte, c'est la même chose que le premier zoo humain en Belgique, à Anvers. S'il y a des gens en Belgique, fin du 19e, qui donnent des cacahuètes aux Congolais, et il y a des gens en 58 qui donnent des bananes à un enfant, rien n'a changé.
C'est au XXe siècle que la notion de race progressivement est remise en cause, hein, mais très progressivement. D'abord, on commence à ne plus s'intéresser à ces mensurations. Hein. Ça passe de mode, en quelque sorte, puisque ça n'aboutit pas à l'objectif fixé, déterminer clairement des races, on n'y arrive pas. Et puis, la science avance, la génétique prend de l'ampleur. Et progressivement, eh bien, les bancs d'écoles d'anthropologie vont se vider. L'anthropologie biologique va remplacer cette anthropologie que l'on peut baptiser de raciale, hein, parce que le terme n'était pas utilisé à l'époque. On s'intéresse plus à l'évolution sur le long terme de l'anatomie humaine et on abandonne cette entreprise classificatoire qui a passionné pendant plusieurs générations. Donc c'est progressivement, le tournant, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Hein, dans les années 60, la Société d'anthropologie est encore active. Alors certes, elle a beaucoup moins d'élèves qu'auparavant. Elle n'est plus aussi attractive. Et l'idée d'inégalité disparaît aussi progressivement après la guerre. Hein, le grand choc, évidemment, c'est les théories raciales nazies, hein, et le génocide qui ont fait réfléchir. Et puis, il y a deux évolutions concomitantes, là aussi, sur le plan politique, hein, une condamnation morale de l'utilisation de la notion de race par les nazis, et sur le plan scientifique aussi, hein, les apories de cette démarche classificatoire qui, finalement, n'aboutissent à rien, la découverte de la génétique, qui font considérer que cette ancienne science des races, elle est complètement obsolète et démodée et inutile. Voilà.
Est-ce que les zoo-humains sont une banalisation du racisme ? Je ne sais pas si c'est une banalisation. C'est une... rendre intelligible le racisme, le rendre populaire, si vous préférez. On a un racisme savant qui se déploie au 19e siècle. Un racisme qui va se structurer, y compris d'ailleurs avec des débats à l'intérieur des écoles d'anthropologie, avec des débats fondamentaux sur l'ordre du monde. Tout le monde n'est pas d'accord. Ce discours concerne une infime minorité. Qui a lu Gobineau ? 5000 personnes. Qui lit les grands savants de l'époque qui s'entretuent pour savoir qui a raison, qui a tort, en mesurant des crânes ou en analysant telle ou telle population, c'est un sujet qui touche une infime partie des élites. Par contre, comment en un siècle le racisme va sortir du monde savant pour toucher le monde populaire, pour devenir extrêmement tangible pour les gens ? Là, je pense que le zoo humain, comme aussi les Jules Verne, comme un certain nombre d'éléments de la culture populaire, attention, ce n'est pas le seul, il ne faudrait pas penser que... Mais d'un seul coup, il rend évident le racisme. Mais pas le racisme tel qu'on peut le concevoir, nous, il rend évident la différence. Il rend évident l'altérité. Il rend évident une chose qui est fondamentale, vous et moi. Le visiteur, le visité. La distance qu'il y a entre vous et moi, elle se fabrique et elle se fabrique de manière répétitive. Toutes les troupes que j'exhibe qui sont à l'intérieur de l'enclos ne sont pas dans la même humanité que moi. Et moi, visiteur, par contre, je prends conscience que je suis hiérarchiquement au-dessus, parce que je suis visiteur. Et je vois des gens qui, par définition, ne sont pas tous exhibés de la même manière. L'un va être légèrement nu, les Africains par exemple, ou les Aborigènes. D'autres vont être plutôt dans leur culture en termes de symboles, les Indochinois. D'autres vont jouer la fantaisie arabe des peuples avec l'islam. Mais chacun va rentrer dans un monde qui va non pas simplement fabriquer de la différence, donc du racisme potentiel, mais va fabriquer une hiérarchisation et une différence, une exotisation du monde et donc un décodage du monde. Et va rendre tangible les mots d'un Jules Ferry, il existe des races supérieures et des races inférieures. Va rendre évident le discours colonial en disant « ils ne sont pas comme nous, nous devons les amener à la lumière ». Et il va, oui, abreuver de manière tangible le discours racialisant et racialiste de l'époque, mais si vous préférez, ce n'est pas un racisme froid. Vous êtes dans le monde du spectacle. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, on devient raciste en s'amusant, en se distrayant. Et donc ça, là, il y a quelque chose qu'il faut saisir, car l'objectif des impresarios, ce n'est pas le racisme. L'objectif des impresarios, c'est de distraire. Mais on distrait sur quelque chose qui est à la fois le spectacle et on distrait aussi sur quelque chose qui est l'altérité. Je veux avoir le frisson sauvage en allant voir le cannibale kanak. Quelque part, ça en fait partie et la barrière me protège. Donc oui, ça fabrique à un moment une dialectique raciste. Oui, quelque part, ça s'inscrit pleinement dans ce 19e siècle qui pense le monde ainsi. Mais sur le fond, le spectacle en lui-même, certains vous diront, mais qu'est-ce qu'il y a de violent ? Donc la première démarche des gens, elle n'est pas de penser que ce qu'ils voient, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une idéologie qui est là pour construire le racisme. Ça le produit, ça le légitime, c'est pas le premier effet levier qui est proposé. D'où son efficacité d'ailleurs. Si c'était le discours le plus raciste n'est pas le discours le plus efficace sur des gens qui pourraient douter. Le discours le plus raciste qui est efficace, c'est celui qui s'immisce tout doucement et qui rend comme une évidence quelque chose qui n'en est pas une.
Il n'a pas suffi de, je sais pas, de défaire le discours. Il ne suffit pas de dire scientifiquement les races n'existent pas. Mais les races n'ont jamais existé scientifiquement de toute façon. C'était pas la question. On n'a rien dit quand on a dit ça, puisque les races n'ont jamais existé. Par contre, les façons de catégoriser les gens, oui, elles ont toujours existé. Et donc c'est les systèmes de domination, les systèmes d'exclusion qui perdurent. Donc l'évolution, je ne sais pas, elle se fait au quotidien, elle est politique, elle est sociale, elle est liée aux questions de l'éducation, de la santé, de l'incarcération, enfin, je ne sais même pas quoi dire. Dans les structures sociales, dans les relations internationales, qu'est-ce qui a évolué ? Il n'y a rien qui a évolué. Donc c'est, je veux dire, les stéréotypes ont du sens, en fait. Ils ont du sens parce qu'ils sont, c'est l'expression peut-être des inégalités qui ont en cours encore aujourd'hui. Enfin, c'est tout. C'est qui travaille où, qui est logé où, qui est payé combien. Enfin, c'est des questions qui sont très concrètes. Donc ça sert à rien de dire les races n'existent pas. Au-delà du discours, il faut des actes. Il faut des actes.
République des zoos humains. Avec Mabula Soumaoro, Pascal Blanchard, Zana Etambala, Martine Coutenier et Carole Reynaud-Paligaud. Merci à Evelyne Heyer. Lecture, Thierry Beauchamp, Alex Fonja et Didier Lagarde. Archive INA, Sophie Enoch. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvan. Prise de son, Yann Fressy. Mixage, Bruno Mourlan. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffy Mariani.
La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce volontiers, j'angoisse les eaux glacées placées devant ce corps sans grâce et ses cuisses sont trop grosses. Ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La peau
comètes et saillantes. Chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique lointaine et luxuriante nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée.